Un journal présenté ce soir par Nicolas Ballu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Camille, bonsoir à tous. Le principal opposant à Vladimir Poutine est ce soir entre la vie et la mort. Alexei Navalny aurait été empoisonné selon son entourage. Le Kremlin lui souhaite un prompt rétablissement. Claude Bruyot nous dira ce qu'il en est. Les regards se tournent également vers le président russe et les services secrets. L'essayiste Michel Elitchaninov nous dira pourquoi. Aux États-Unis, Joe Biden s'apprête à clôturer la convention d'investiture démocrate pour la présidentielle. On apprend ce soir que l'ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, est inculpé de détournement de fonds. Le président français Emmanuel Macron reçoit la chancelière allemande Angela Merkel à Brégançon, à l'heure où l'Europe prend de plus en plus de mesures restrictives pour éviter une deuxième vague de Covid-19. Nous ferons un tour d'Europe des mesures qui sont prises. En France, les Verts ouvrent les universités d'été à Pantin avec la présidentielle de 2022 en point de mire et la rivalité Yannick Jadot-Éric Piolle nous dira Anne Fauquemberg. Et puis après la vidéo de L214 sur un élevage de canards en Pyrénées-Atlantiques, la filière foie gras tente de se défendre, mais cela fait plusieurs années qu'elle est désormais montrée du doigt. Explication de Thomas Larabi dans ce journal. En Russie, Alexei Navalny, toujours dans le coma, dans un hôpital de Sibérie occidentale, celui qui est aujourd'hui le principal opposant à Vladimir Poutine et le leader de la lutte anticorruption, aurait été victime d'un empoisonnement selon ses proches. Un produit aurait été versé dans son thé. Le Kremlin a offert son aide et souhaité un prompt rétablissement à l'intéressé. Mais ce soir, Alexei Navalny est loin d'être tiré d'affaire, Claude Bruyot.
Anastasia Vassilieva, l'un des médecins d'Alexei Navalny, arrivé sur place à Omsk, où est hospitalisé l'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, a demandé officiellement l'aide du Kremlin pour organiser un transfert vers un établissement spécialisé dans la recherche de produits toxiques en Europe. Quant à Yulia Navalnaya, son épouse, elle a été autorisée à le visiter cet après-midi. Sur place, les médecins affirment avoir stabilisé l'état de santé d'Alexei Navalny sans autre précision. La porte-parole du leader de l'opposition en Russie, Kira Yarmish, assure elle qu'il se trouve toujours dans un état grave. Cette nouvelle hospitalisation, après une première tentative d'empoisonnement en juillet 2019, intervient alors que vont se dérouler dans 3 semaines des élections régionales partielles, à l'occasion desquelles Alexei Navalny avait déjà appelé à voter pour les candidats les mieux placés pour barrer la route à ceux soutenus par le Kremlin.
Alors il n'y a pour le moment peu de certitude sur les faits et surtout le mobile, s'il s'agit d'un empoisonnement. Mais Alexei Navalny a déjà été victime d'empoisonnement, Claude Bruyot vous le disait. Il a fait également de la prison. L'empoisonnement est une méthode courante employée par les services secrets russes. Eh bien qu'il soit un peu tôt pour faire une analyse politique, les regards se tournent vers le Kremlin. Michel Elitchaninov, auteur de « Dans la tête de Vladimir Poutine », livre qui est paru aux éditions Actes Sud.
C'est une pratique courante qui vise soit à tuer, soit à intimider. Les services russes auraient peut-être empoisonné le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, au moment même de la crise au Bélarus et au moment même où il y a un risque de contagion entre l'opposition au Bélarus et en Russie, où les mouvements de mécontentement sont de plus en plus fréquents, notamment dans l'Extrême-Orient. Donc on peut se demander si de la part des autorités russes, empoisonner Navalny aujourd'hui, ce n'est pas une intimidation, ce n'est pas une manière de dire « attention, si vous aussi vous essayez de jouer un scénario bélarusse, si vous voulez faire des manifestations contre moi », eh bien, vous savez que les méthodes employées seront terribles. Évidemment, aujourd'hui, il est trop tôt pour faire une analyse politique de ce possible empoisonnement d'Alexei Navalny, mais le moment n'est pas totalement contingent. Peut-être qu'il y a un lien à faire entre cette volonté de dire aux opposants russes « vous êtes menacés » afin d'éviter toute contagion qui viendrait du Bélarus.
Michel Elitchaninov, interrogé par Nadine Epstein. Dans quelques heures, Joe Biden prononcera son discours de clôture de la convention d'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine. À Wilmington, dans le Delaware, son adversaire, le président Donald Trump, tente d'occuper le terrain avec un meeting tout près du fief familial du candidat démocrate à Scranton. Gros caillou dans la chaussure du président américain. Cet après-midi, Steve Bannon, son ancien conseiller et architecte de la précédente campagne de Donald Trump, a été inculpé de détournement de fonds, des fonds versés d'un site à un site de financement participatif censé contribuer à la construction du mur à la frontière américano-mexicaine. Steve Bannon aurait utilisé des centaines de milliers de dollars pour couvrir des dépenses personnelles. Ce soir, à l'instant, Donald Trump affirme ne rien connaître de ce projet. Je n'ai pas eu de contact avec lui depuis très longtemps, dit-il. Angela Merkel et Emmanuel Macron réunis tous les deux en ce moment même au fort de Brégançon. Le président français accueille la chancelière allemande pour préparer la rentrée. L'Allemagne préside l'Union européenne jusqu'en décembre et les dossiers sont très nombreux. Le climat, les tensions avec la Turquie en Méditerranée orientale, la Biélorussie, le Brexit et bien sûr l'épidémie du Covid-19. La peur d'une seconde vague est réelle entre le rebond en Allemagne, la hausse du nombre de cas en Espagne ou en France par exemple. L'Organisation mondiale de la santé rassure, selon l'OMS, la pandémie peut désormais être gérée en Europe sans verrouiller la société dans son ensemble. Mais sur tout le continent, les mesures de restriction se multiplient, Johanna Hauchstein.
En Europe, l'heure est désormais au port du masque obligatoire, même à l'extérieur, à Bruxelles, en Espagne, à Madrid, sur les terrasses, en Andalousie, sur les plages, dans plusieurs rues commerçantes d'Amsterdam cet été. La majorité des pays européens ont déjà imposé le port du masque dans les espaces publics clos. Même le Danemark s'y est mis fin juillet et recommande désormais de porter un masque de protection dans les transports en commun. Et puis, il y a les avertissements aux voyageurs. L'Allemagne a déclaré pratiquement toute l'Espagne et une partie des Balkans comme zone à risque, avec tests et quarantaine au retour des vacances. La Finlande vient d'ajouter une dizaine de pays, dont l'Allemagne, à la liste des destinations dont les voyageurs doivent se soumettre à une quarantaine à leur arrivée sur le territoire. L'Autriche déconseille désormais à ses résidents de se rendre aux Baléares. Londres impose depuis le 15 août une quarantaine pour quiconque revient de France, des Pays-Bas et Malte. Et il est obligatoire de se présenter avec un test négatif au Covid-19 pour entrer en Grèce ou à Chypre. Face à cette nouvelle vague, les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, ferment leurs discothèques. En Espagne, il est même interdit de fumer dans les rues si une distance de sécurité de 2 mètres ne peut être respectée.
Johanna Hauchstein pour France Culture. En France, ces dernières semaines, la tendance est à la hausse de la Covid-19 avec comme constat inquiétant des contaminations chez les jeunes. Ils représentent près de la moitié du total des cas. Les personnes âgées, pourtant plus à risque, sont beaucoup moins contaminées aujourd'hui alors qu'elles ont été les plus touchées au plus fort de la crise. Ça ne surprend pas le sociologue Serge Guérin.
Les personnes âgées en France ont bien compris qu'elles représentaient une population à risque et donc elles couraient un risque individuel avec une mortalité nettement plus élevée. Et donc, elle respecte mieux, d'une manière générale, les gestes barrières, que ce soit la distanciation sociale, le port du masque et le lavage des mains. Le deuxième élément, c'est que la politique de tests plus massive, même si elle est probablement pas encore à la hauteur de ce qu'on doit attendre, fait qu'il y a eu beaucoup plus de tests faits, par des jeunes notamment, et asymptomatiques ou très peu symptomatiques. Et donc, on a eu des cas positifs qui, en nombre, ont écrasé les cas positifs symptomatiques des personnes âgées. Et donc, on a un ratio qui s'est très abaissé. Et le dernier point, c'est que c'est un point plus inquiétant, la rediffusion virale se fait par les tranches les plus jeunes de notre population. Dans les semaines qui viennent, il pourrait y avoir une diffusion plus massive, je dirais à l'étage générationnel du dessus. Je pense qu'il faut qu'on soit encore plus protecteur, et ça c'est le rôle des générations les plus jeunes, de bien respecter les gestes barrières pour elles-mêmes, mais surtout dans une vision de protection des aînés pour éviter la diffusion, quoi. Donc il va falloir encore faire un effort collectif, je pense, pour bien intégrer ces gestes-là, surtout avec la fin de l'été et la reprise d'un climat plus froid et plus humide qu'on sait propice à la diffusion virale.
Le sociologue Serge Guérin, joint par Adrien Toffolet. C'est un effet prolongé de la crise sanitaire et sociale, la faim. Les associations d'aide alimentaire débordent de demandes. En France, la Banque alimentaire a enregistré une hausse de 20% des inscriptions ces 3 derniers mois. Les chiffres sont comparables au Resto du Cœur ou au Secours Populaire. L'État a distribué une enveloppe supplémentaire de 55 millions d'euros. L'aide est bienvenue mais insuffisante selon ces associations. À quelques jours de la rentrée, il n'y a presque plus de stock. Laurence Champier, la directrice générale de la Banque Populaire.
Aujourd'hui, on est dans une situation un peu tendue parce qu'effectivement, on a travaillé pendant 2 mois. On a vidé nos stocks de produits secs. Sur les produits frais, on avait cessé les ramasses pour des raisons sanitaires, etc. dans les magasins. Donc vraiment, on a puisé sur nos stocks, sur ce qu'on pourrait appeler nos fonds de placard. Et aujourd'hui, on a des stocks qui sont vraiment au plus bas. On n'a pas pu faire de collecte de printemps, puisque les raisons sanitaires nous interdisaient de pouvoir mettre nos bénévoles au contact d'autres personnes dans les magasins, etc. Et donc, on voit la rentrée arriver avec un petit peu d'appréhension. On a une grosse échéance, nous, c'est notre collecte de fin novembre. Elle représente à peu près 12% de nos approvisionnements. C'est 12 000 tonnes qu'on récupère en deux jours. Donc, c'est absolument colossal. Et si on ne peut pas faire notre collecte, alors ça sera très compliqué de continuer notre mission, même avec la meilleure volonté du monde.
Laurence Champier, la directrice générale de la Banque Populaire, interrogée par Maxime Fayolle. Les universités d'été des politiques, les Verts, donnent le coup d'envoi. Ils sont réunis en Seine-Saint-Denis, à Pantin. Le moral est au beau fixe après les résultats des élections municipales. En ligne de mire, désormais, la présidentielle de 2022, après les départementales et les régionales. Officiellement, l'important, bien sûr, c'est le projet politique. Mais les universités d'été sont aussi le théâtre des égos où les prétendants au leadership peuvent se mesurer. Anne Fauconberg, bonsoir.
Bonsoir.
Ces universités d'été-là ne font pas exception à la règle avec en vedette Éric Piolle et Yannick Jadot.
Oui, aucun des deux n'est officiellement déclaré à l'élection présidentielle de 2022, mais Yannick Jadot dit clairement qu'il se prépare. Il a convoqué la presse et c'est comme si l'eurodéputé voulait prendre de court son parti. Il demande un vote des militants avant la fin de l'année.
Ce que je veux, c'est que le mouvement écologiste ne soit pas divisé pendant les régionales qui sont des élections essentielles. Et je ne veux pas que le mouvement écologiste soit instrumentalisé.
Sujet sensible alors que les Verts ne veulent pas retomber dans leurs querelles intestines. Côté Éric Piolle, le maire de Grenoble au centre de gravité du parti qui parle à toute la gauche. Il fera un aller-retour demain aux amphis d'été des Insoumis. Eh bien, on botte en touche.
Il faut gagner, construire le collectif, le projet, la méthode et le calendrier pour gagner en 2022. Le calendrier, vous voyez, c'est ces hommes-là qui sont en charge.
Ces hommes-là, ce sont Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, et Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui veut avancer match après match et qui entend s'en trancher à ce stade.
Désigner une candidature avant Noël, on en discutera en septembre. Ça me poserait des tas de problèmes logistiques, on va dire.
Julien Bayou qui ajoute « Celle ou celui qui gagnera sera celle ou celui qui aura le mieux soutenu les candidats aux régionales élections, dont il pourrait prendre la tête de liste en Ile-de-France pour déboulonner la droite de Valérie Pécresse. »
Anne Fauconberg, avec les moyens techniques d'Olivia Branger. Beaucoup de réactions toute la journée après la diffusion d'une vidéo d'un élevage de canards dans les Pyrénées-Atlantiques par l'association antispéciste L214. Bâtiment totalement insalubre, cadavres de canards décomposés, non ramassés, des cages en train de s'effondrer, un épais flot d'excréments, entre autres. Voilà le contenu de cette vidéo qui choque. Le propriétaire parle de vidéos faussées mensongères et la profession peine à y croire. Il faut dire, Thomas Larabi, que la filière, malgré les efforts, n'est pas épargnée par les critiques ces dernières années.
Oui, ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'L214 cible la filière foie gras. En 2012 déjà, des images de l'association antispéciste dénonçaient les conditions d'élevage et de gavage pour l'entreprise Labeyrie. À l'époque, suite à cette vidéo, Amazon au Royaume-Uni avait même retiré de la vente tous les produits à base de foie gras. Mais depuis, il y a eu un véritable tournant. Selon les producteurs, de 2015 à 2017, deux épisodes de grippe aviaire déciment les élevages français. Des millions de canards sont abattus. Les professionnels sont alors sommés de revoir tous leurs dispositifs pour se protéger des épidémies, bien sûr, mais aussi pour améliorer le bien-être animal. C'est ce qu'a vécu Benjamin Constant, éleveur dans le Gers et président de la Fédération nationale des producteurs de foie gras.
Ça a été des évolutions par rapport à l'alimentation, pour que les animaux aient accès à de l'alimentation dans les bâtiments, et non plus à l'extérieur comme cela se faisait. C'est de l'amélioration par rapport à la conduite de nos parcours en plein air pour nos animaux, pour permettre qu'ils aient de l'ombre et de l'herbe. Moi, pour ma part, j'étais contrôlé en 2017, et là, j'ai encore été contrôlé par mon opérateur. Non. C'est des choses, on est régulièrement, on a des comptes à rendre. Hein. Il y a aussi des formations, c'est ce genre de petites évolutions qui font qu'à un moment donné, on relève encore un peu plus l'exigence et on respecte encore plus l'animal que ce que l'on faisait auparavant.
Et au-delà des conditions d'élevage, le débat sur le gavage en lui-même est loin d'être terminé, et pas qu'en France. La production de foie gras est déjà interdite dans de nombreux pays comme le Danemark, l'Angleterre ou l'Australie. Sa commercialisation sera même même interdite à New York fin 2022.
Merci Thomas Larabi. Le temps demain, le ciel sera plus nuageux dans le nord et l'ouest du pays, tandis que le soleil et la chaleur domineront dans le sud et l'est. Les températures minimales vont de 15 à 23 degrés, les maximales de 21 à 26 degrés de la Bretagne au littoral de la Manche, de 24 à 30 degrés de la frontière belge jusqu'au littoral atlantique. Elle reste élevée ailleurs avec de 30 à 35 degrés jusqu'à 36 à 37 degrés de l'Alsace au Rhône-Alpes.